Nous sommes aujourd'hui avec le père Raphaël Clément, prévôt de l'oratoire de Dijon et par ailleurs délégué de l'archevêque de Dijon, Mgr Hérouard, pour les relations avec le judaïsme. Bonjour.
Bonjour Thierry, merci de m'inviter.
Je souhaite que nous revenions sur un événement important. Le 28 octobre 2025 a été célébré les 60 ans de la déclaration Nostra Aetate, au Vatican notamment, mais dans le monde entier. Événement important s'il en est, sur les rapports entre l'Église catholique et les autres religions, et en particulier le judaïsme. Alors peut-être, Père Clément, revenir sur cette déclaration, comment nous en sommes arrivés là, et qu'est-ce qu'elle porte en elle d'essentiel.
Merci beaucoup de m'interroger sur ce point. De fait, l'anniversaire, les 60 ans, peut-être plus que les 50 ans, a donné lieu à de nombreuses commémorations, de nombreuses prises de parole. Moi-même, je viens de faire un article dans la revue diocésaine à ce sujet. Et c'est précieux, peut-être que le moment s'y prête beaucoup plus qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans, parce qu'on en perçoit bien les enjeux. Ce texte, alors les textes de l'Église catholique, surtout de ce type de niveau, portent toujours comme titre les deux premiers mots latins, parce que le texte est rédigé et voté en latin, et Nostra Aetate, ça veut tout simplement dire « à notre époque », « à notre époque ». Donc ça marque bien le fait qu'il est très situé historiquement, qu'il est très situé chronologiquement, 1965, on est donc 20 ans après l'ouverture des camps, la libération de tous les survivants des camps. On est 17 ans, 18 ans après la proclamation de l'État d'Israël. En fait, je dis quelques mots de la Genèse, hein. On avait convenu de ça.
Absolument.
On voit bien que le XXe siècle, déjà dans les années 20, dans les années 30, dans différents pays, et puis surtout après 1945, ont été un moment dense, tant du point de vue juif que du point de vue chrétien, d'un rapprochement, voilà, d'un rapprochement fraternel. Il y a eu, en 1947, une conférence à Seelisberg, en Allemagne, qui avait rassemblé une soixantaine de personnes, des chrétiens et des juifs, chrétiens, c'est-à-dire aussi bien catholiques que protestants, c'est ça qui est intéressant, et qui avait abouti à un document qui était relativement unanime sur la reconnaissance des racines juives du christianisme, un regard beaucoup plus appréciatif à l'égard du christianisme. Donc là, on est à revers de 18 siècles d'un certain anti-judaïsme chrétien. Il faut appeler les choses par leur nom. Et dans ce groupe, il y avait un Français que les plus anciens connaissent indirectement, Jules Isaac, c'est les fameux manuels Isaac Mallet, chez les manuels d'histoire. Là. Et donc Jules Isaac, qui était un engagé d'histoire, et qui a beaucoup œuvré dans ce sens-là, et il avait rencontré le pape Pie XII, à la fin de la vie du pape Pie XII, et il a rencontré son successeur, le pape Jean XXIII, en 1960. Et ça avait beaucoup impressionné ce pape, qui du coup avait confié à un cardinal jésuite, le cardinal Béat, dans la perspective du concile qui allait s'ouvrir en 1962, le travail de rédiger un texte préparatoire qui serait adopté par le concile sur les relations de l'Église avec le peuple juif. Bon, ce qui est intéressant, c'est que ce texte, il a connu des vicissitudes assez notables, assez repérées. Il y a eu 4 versions définitives de ce texte. Pour faire court, il a failli passer à la trappe. Dans un premier temps, pour des oppositions politiques, des vraies oppositions politiques de gouvernement qui sont opposées à ce type de texte. Et puis aussi en interne, des théologiens qui trouvaient que ça allait trop loin du point de vue du regard nouveau que ça supposait, mais je vais y revenir dans un instant, sur le judaïsme. Et puis aussi des évêques orientaux. Parce que les évêques orientaux, qui ont beaucoup de chrétiens arabes, en fait, dans tout un tas de pays, en Syrie, en Irak, dans le sud de la Turquie, en Égypte, en Jordanie, etc., etc., étaient, pour des raisons politiques, était opposé à tout travail, à toute énonciation théologique, dogmatique sur ce thème. Donc, dans un premier temps, il était passé à la trappe. Donc, il avait fallu, dans un deuxième temps, le réexhumer. Et puis, c'est finalement le concile lui-même, qui c'est les évêques, hein, 2000, presque 2300 évêques, qui étaient réunis pour quatre sessions entre 1962 et 1965. C'est les évêques également qui l'ont repris, qui l'ont réenrichi, en particulier des évêques asiatiques, qui ont réenrichi du côté de l'intégration de l'hindouisme, du bouddhisme, etc. Donc, et c'est devenu ce fameux texte qui a été voté à une très très large majorité, hein, 2221 voix pour et 88 voix contre. C'est intéressant. Hein. Et voilà, c'est ce texte que nous avons qui concerne non pas les relations de l'Église avec le judaïsme, mais les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes. Voilà. Alors, c'est le moment où je peux parler du contenu. Je sais que Mgr Rerroir en avait déjà un peu parlé.
Oui, parce que ce qui m'a intéressé dans le propos de l'archevêque et que nous allons évoquer, c'est la particularité quand même dans ce texte, la place essentielle du judaïsme, on pourrait dire première. Et j'ai vu que dans l'organisation même administrative, on peut dire, de l'Église, la question du monde juif est traitée en termes de dicaster, c'est-à-dire de ministère, en lien avec les autres églises chrétiennes et pas avec les autres religions. C'est-à-dire qu'il y a une place particulière qui est donnée au judaïsme dans les textes et dans l'organisation du travail de l'Église catholique. Est-ce que je me trompe ?
Non, non, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que autant l'Église regarde les autres religions comme lui étant extérieures, il y a des commissions théologiques avec l'hindouisme, avec le bouddhisme, avec l'islam, avec l'animisme, voilà. Mais le judaïsme, l'Église considère qu'elle a un rapport, je sais pas comment dire, d'une telle proximité que, eh bien, c'est presque le même rapport de proximité que celui qu'elle entretient avec les autres confession chrétienne, c'est-à-dire le protestantisme, l'anglicanisme, les orthodoxies, etc. Donc, de fait, oui, c'est vraiment un dialogue un peu à part, parce que, en fait, il y a deux dialogues. Il y a un dialogue interne à l'Église, et on va en parler, mais qui suppose en particulier de revoir un peu à rebours 1900 ans, le rapport est d'une relation, d'une vision qui était très biaisée, en particulier par la théologie des pères de l'Église au 2e, 3e, 4e siècle. Donc ça, c'est ce rapport interne. Et puis un rapport externe, évidemment, qui est des relations fraternelles, des échanges, du respect mutuel, et puis de vrai en vue de la paix, de la compréhension réciproque, pas seulement, mais de la paix, quoi, offrir quelque chose à l'humanité. Ce texte, Il y a cinq paragraphes, et le plus important, c'est le quatrième paragraphe qui concerne nos relations avec le judaïsme. Mais il y a cinq paragraphes, et c'est intéressant, je prends le temps quand même en quelques phrases. Le premier paragraphe qui rappelle la mission de l'Église de promouvoir l'unité du genre humain, voilà, l'unité du genre humain. C'est-à-dire que tout le genre humain, toute l'humanité est traversée par les mêmes questions, quoi. C'est-à-dire les énigmes cachées de la condition humaine qui, hier comme aujourd'hui, trouble profondément le cœur humain. Où qu'on soit, on est traversé par ces mêmes énigmes, ces mêmes questions qui traversent le cœur humain. Le deuxième paragraphe, ça c'est révolutionnaire, absolument révolutionnaire. Il est d'une appréciabilité qui est extraordinaire. Quand il regarde donc ce désir universel, désir religieux qui est inscrit dans le cœur de tout homme, mais même s'il est exprimé dans des cultures et dans des systèmes religieux qui sont si différents, le Concile dit « L'Église ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions. » Ils ajoutent « Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines qui, quoi qu'elles diffèrent, en beaucoup de points de ce qu'elle-même propose et tient, cependant, apporte un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. » C'est merde. Regardez chaque culture, chaque religion comme apportant un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. D'où un respect, quoi. Vraiment un respect. Alors, je peux vous dire que ça, ce point-là, était difficile à entendre, parce qu'il y avait, évidemment, comme partout, comme dans tout groupe humain, il y a des gens plutôt tenant d'une autre lecture, et d'une lecture plus négative, plus méfiante, plus distancielle des autres religions. Le troisième point, et le troisième paragraphe, est consacré à un regard sur les musulmans. Donc, le texte dit qu'ils adorent le Dieu un, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, et qui a parlé aux hommes. Voilà. Et en particulier, en appelant à oublier toutes les dissensions et inamitiés passées entre chrétiens et musulmans, en vue évidemment d'une compréhension réciproque. Et puis, il y a ce quatrième long et beau paragraphe sur les relations avec le judaïsme.
Oui, ça se termine donc par des remarques générales. Alors, le judaïsme, parce qu'il y a une dimension quand même théologique. Je vais partir de quelque chose de simpliste volontairement. On dit dans certains milieux qui n'ont pas une culture théologique évidemment affirmée, par exemple Saint Paul, dont on parle beaucoup, on dit Saint Paul haïssait les juifs et a rejeté sa propre histoire, qu'il pensait que le monde juif, le judaïsme, empêchait la vérité et l'unique vérité détenue par la révélation chrétienne, l'arrivée du Christ dans le monde des croyants. Est-ce que c'est vrai que, par exemple, cet apôtre était aussi... Est-ce que les choses sont si simples dans le rapport entre le texte, la théologie et la pensée chrétienne?
Je pense que vous présentez en posant cette question que, évidemment, c'est pas si simple. Et puis surtout qu'une lecture un peu respectueuse, un peu du texte de Saint Paul, montre bien que... Par exemple, c'est intéressant que vous me posiez ces questions parce que dans Nostra Aetate, dans ce fameux long paragraphe sur le judaïsme, on sollicite deux citations très... très connu et très, très, très célèbre de Saint Paul, qui, notamment une dans l'Épître aux Romains, où il dit « Les dons et les appels de Dieu sont sans repentance. » C'est-à-dire que quand Dieu crée, fait alliance avec un peuple, comme le peuple d'Israël, eh bien, cette alliance, elle n'est pas révoquée. C'est Saint Paul qui l'a dit, chapitre 9, verset 11 de l'Épître aux Romains. Les dons et les appels de Dieu sont sans repentance. Ce point, c'est important, et donc le Concile fonde ce rejet de la théologie de la substitution sur ce texte même de Saint Paul. Et puis, il y a d'autres éléments un peu plus loin dans la même Épître aux Romains, au chapitre 11 en particulier, dans le long chapitre 11, qui appuient cette manière de montrer que l'Église est redevable, puissamment redevable, de ses racines chrétiennes, en prenant en particulier l'image de la greffe sur un olivier. Non, on est toujours tributaire dans nos lectures, qui que nous soyons, hein. Notamment quand il s'agit de lire un texte sacré, on est toujours tributaire de la lecture, de l'interprétation qu'on en fait, et en particulier de tous les filtres qui peuvent s'interposer. Enfin, c'est vrai, dans toutes les religions, en fait. Hein. Et pour Saint Paul, je pense qu'il y a... Bon, il le dit lui-même, hein, pharisien, fils de pharisien, élevé au pied de Gamaliel. Alors, lequel Gamaliel? Parce qu'il y a plusieurs Gamaliel au 1er siècle. Mais élevé au pied de Gamaliel, etc. Zélé pour la loi, observant, etc. Et qui va déployer une activité missionnaire très forte dans le bassin méditerranéen, s'adressant tantôt aux différentes communautés juives, tantôt à des goïms dans le pourtour méditerranéen, donc avec des questions, avec une exigence, parce que c'est un homme de tempérament assez fort, mais on n'est pas du tout chez lui dans une telle ligne de refus et de rejet du judaïsme, au contraire, c'est très impressionnant de noter ça. Je reviens sur la question de la théologie de la substitution.
Oui, je pense que c'est nécessaire.
Parce que ça, c'est un des points, un des axes forts de ce texte. C'est une théologie ou une opinion théologique qui a été diffuse de façon très très forte pendant des siècles et qui en particulier a pris son origine dans ce qu'on appelle la théologie des pères, c'est-à-dire les pères de l'Église, des grands personnages très connus, saint Augustin, fin du IVe siècle, saint Jean Chrysostome, 5e, 6e siècle, et tant d'autres, voilà. Et de fait, un certain nombre de ces auteurs ont pu appuyer d'une façon un petit peu excessive l'idée que à partir du moment où Jésus de Nazareth, le Christ, reconnu comme le Christ, le Messie par les chrétiens, donnait naissance à l'Église, eh bien ce nouveau peuple de Dieu prenait la place de l'ancien peuple de Dieu parce que, disent-ils, l'alliance de Dieu aurait été retirée du peuple d'Israël pour être confiée à ce nouvel Israël. Donc on appuie énormément du côté de la rupture d'une part et du côté de la nouveauté que représente cette nouvelle alliance, ce nouveau testament, ce nouveau peuple de Dieu qu'est l'Église. Quelque part, cette théologie de la substitution, elle avait fait son lit dans la pensée d'un auteur du deuxième siècle qui s'appelle Marcion, qui, alors lui, était allé très loin, mais surtout avait été condamné. C'est la seule condamnation, mais c'est la plus ancienne en même temps, des positions anti-juives. Au sein de l'Église catholique. Marcion considérait que, je fais court, le Dieu de l'Ancien Testament était vengeur et colérique, alors que le Dieu du Nouveau Testament était beaucoup plus sympa parce qu'il était miséricordieux, et donc, eh bien, il enlevait de l'ensemble du corpus de la Révélation, l'ensemble du corpus de la Bible, tout l'Ancien Testament. Alors, son procédé ne s'arrêtait pas là, parce que même dans le Nouveau Testament, il y avait des choses qui lui dérangeaient. Donc, il enlevait quand même pas mal de choses. Donc, il restait l'Évangile selon Saint-Luc, et encore quelques chapitres de l'Évangile selon Saint-Luc. Et puis, dans les autres écrits ultérieurs, il en enlevait presque trois quarts. Donc, il restait plus grand-chose, en fait. Puis, il restait ce qui l'arrangeait au service de sa thèse. Or, il était condamné formellement en 177. Mais on voit bien que le marcionisme, il est diffus.
Oui,
largement diffus.
Je me permets, Père Clément, parce qu'aujourd'hui encore, on peut entendre ou lire ici ou là, dans les conversations du quotidien, des gens qui opposent encore ce Dieu de l'Ancien Testament, vengeur, terrible, avec ce Dieu d'amour. Enfin, cette espèce de vision binaire des choses continue à se diffuser.
Mais oui, parce
qu'elle a beaucoup inquiété le monde juif, d'ailleurs.
Mais elle inquiète également le monde chrétien, parce qu'en fait, elle est fausse. Elle est absolument fausse. Il faut le dire et le redire et le re-redire. Au sens d'une... pour nous, chrétiens, enfin, quand on est fidèle à une lecture continue de l'Écriture, il y a une... Il y a une continuité très grande dans le visage de Dieu, qui est un Dieu bon et miséricordieux. L'œuvre de création le manifeste, l'œuvre de salut le manifeste. Ça commence par la sortie d'Égypte, et ça continue par le don de la loi, et ça continue par les prédications des prophètes, etc., etc. Alors évidemment, pour nous chrétiens, ça culmine dans la figure du Christ, la figure de tout ce qu'il fait et dit, qui se prolonge dans la vie de ses disciples, dans l'Église. Donc, ce qui est intéressant, c'est que d'où vient cet anti-judaïsme, en fait ? D'où vient cet anti-judaïsme archaïque qui est véhiculé à ce moment-là par des gens comme Marcion, mais les néo-martions des temps modernes, en fait, qui ont cru trouver là quelque chose, un aiguillon pour cultiver, entretenir un anti-judaïsme comme système religieux, et puis en fait un antisémitisme pratique, avec le grand mystère qui est de s'interroger pourquoi dans un pays à très très grande majorité chrétienne, l'antisémitisme a pu à ce point faire son nid dans les années 30. C'est pas qu'un antisémitisme païen au nom de la race supérieure. Il faut reconnaître avec effroi qu'il y avait sans doute des éléments chrétiens dans l'antisémitisme nazi, en fait.
Oui, comme il y a eu de l'antisémitisme païen dans les premiers siècles.
Bien sûr, l'édit de Claude.
La Rome, etc.
L'édit de Claude en 1949. Il faut se souvenir de l'édit de Claude, qui est le premier acte formel au premier siècle sur l'antisémitisme.
On est bientôt à la fête de Hanouka, qui a un rapport d'ailleurs avec cette question de l'antisémitisme politique actif. Alors, pour revenir sur la question de l'alliance, donc cette alliance de Dieu pour les chrétiens persiste quant au peuple juif. Alors, la particularité, c'est que le peuple juif s'est défini dans son histoire aussi par une dimension politique, et que cette dimension politique est revenue à travers le sionisme.
Et... Oui. Avant qu'on évoque ce sujet, j'aurais voulu revenir sur un autre point qui est un point très important dans le texte de Nostra Aetate, qui est de lever l'accusation de peuple déicide. Parce que ça a pollué le christianisme et donc ses relations avec le judaïsme pendant des siècles, pas seulement au moment des croisades et du Moyen-Âge, avec une clarté fine et précise sur le fait que finalement tous sont coupables de la mort du Christ. Voilà, donc de lever d'une façon tous des contemporains du Christ, enfin les Romains, etc. Donc et quelque part dans une actualisation. Générale, en fait, et spiritualisée, et finalement, dans le christianisme, on considère que, puisqu'il est mort pour mes péchés, je suis également coupable de la mort du Christ, même à distance, puisqu'il est mort pour mes propres péchés. Donc nous sommes tous coupables. Et donc, c'est très important cette question-là. Et il n'y a pas très longtemps, donc au moment de l'anniversaire de cette déclaration de Nostra Aetate, il y a eu un très beau texte de la Conférence des rabbins d'Europe. Alors, je ne suis pas sûr du titre exact de l'institution. Je crois que c'est celui-là. Le premier ou le deuxième vice-président avait écrit un très beau texte où il reprend cette question-là. Avec ces mots, le rejet de la théologie de la substitution et le rejet du peuple déicide. Et donc c'est très important, parce que je pense que la manière dont ce texte Nostra Aetate est reçu lui-même par le monde juif dit beaucoup de la pertinence de ce texte. Alors, de fait, pour reprendre la question que vous posiez tout à l'heure, on est en 1965, les commentateurs ont pu assez vite remarquer et regretter que deux manques viennent entacher la réception de ce texte. Il y avait deux manques majeurs. D'abord, aucune mention explicite de la Shoah. On pourrait dire quand même 20 ans après la libération des camps, c'est un peu curieux. Le texte, à un moment donné, dit qu'il déplore toutes les manifestations d'antisémitisme, les haines, les persécutions qui ont été dirigées contre les Juifs. Alors, déplorer en français, c'est un petit peu faible. Bon, le mot latin est un peu plus fort. Bon, mais quand même, on aurait pu imaginer une mention spécifique de la Shoah. Donc, ça n'a pas été fait. Il y a un deuxième manque qui est, comme je disais tout à l'heure, on est 17 ans, 18 ans après la reconnaissance de l'État d'Israël, et rien sur l'État d'Israël. Et pour une raison assez simple, c'est que pour pouvoir faire admettre par une large majorité ce texte, il a fallu se cantonner, si je puis dire, dans une dimension purement religieuse, purement spirituelle, et sans aucune allusion, implication politique. Voilà. Et ça, ce point-là va sans doute être un point qui va être un bouton à gratter pendant plusieurs années encore. Il faut quand même imaginer que la reconnaissance par le Saint-Siège de l'État d'Israël va arriver en 1993. 1993, avec l'accord fondamental entre le Saint-Siège et l'État d'Israël. Ça devra beaucoup à l'initiative et l'énergie du pape Jean-Paul II. On se souvient que Jean-Paul II, donc polonais d'origine, élu pape en 1978, Karol Wojtyła, avait vécu à Wadowice, au sud de Cracovie, dans une ville qui était à l'époque à moitié catholique et à moitié juive. Donc lui-même fréquentant des amis juifs pour les fêtes des uns et des autres. Et donc ça a créé une proximité, une amitié, une connaturalité très très forte, interpersonnelle, parce que au fond, le dialogue judéo-chrétien, c'est d'abord ça. Parce qu'il y a des textes, il y a beaucoup de textes. Après Nostra Aetate, il y a une floraison de textes. Mais c'est d'abord des relations personnelles. Donc celle de Jean-Paul II avec ses amis juifs est très forte. Elle a beaucoup amené à travailler dans ce sens. Donc 1993, l'accord fondamental, donc avec l'ouverture d'ambassades, etc. L'autre point que je voulais dire, c'est que c'était pas simple en fait pour l'Église catholique, pour le Saint-Siège en particulier, pour des raisons politiques, et les relations en particulier avec toute une part de la minorité arabe chrétienne qui est assez présente au fond dans tous ces pays arabes. Donc c'était pas très simple. Donc ça voulait dire des questions de diplomatie, des questions d'intégration de l'existence politique d'Israël. Donc là, je reconnais que passer de cette sphère religieuse à la reconnaissance d'un État moderne, je pense que pour le Saint-Siège, faisait aucun doute qu'il y avait un droit à avoir une terre. C'est une évidence. Je pense qu'il n'y a aucune position anti-sioniste. Je sais que Théodore Herzl, à l'époque, avait rencontré le pape Léon XIII.
D'accord.
Bon, mais alors à l'époque, fin 19e, je pense que l'Église était... Voilà, c'était pas le moment, on n'était pas du tout prêt à ce genre de questions. Mais voilà, il faut que les mentalités changent, et vous savez, c'est très long, hein. Les mentalités changent de façon lente.
Donc, ce que vous dites, je me permets de vous couper, est très important, parce que les paroles que vous venez de prononcer sont fondamentales. Parce que je pense que du côté catholique, beaucoup de gens sont perdus. C'est vrai que tout ça est très complexe. Et du côté juif, il y a beaucoup d'inquiétude et de méfiance, parce que les choses ne sont pas forcément dites clairement, parce que chacun est dans son rail, chacun est dans son histoire et ses soucis, surtout avec la montée actuellement de l'antisémitisme, en tout cas sa résurgence, son expression, parce qu'il était évidemment toujours là. Donc je pense que ce que vous avez dit est très important et doit être entendu. Et j'ai vu que récemment était sorti, vous en parliez, un manuel de théologie d'Israël, avec le sous-titre qui reprend l'expression que vous avez utilisée, je crois, de l'apôtre Paul, « L'alliance jamais révoquée ». C'est pas banal de voir ce type de travaux avec des gens, des catholiques, des protestants, des juifs, qui travaillent sur une réflexion théologique.
Et des orthodoxes.
Et des orthodoxes, oui.
Et des orthodoxes, parce qu'en fait, le dialogue judéo-chrétien intègre des catholiques, évidemment, des protestants qui sont assez en connaturalité avec le judaïsme pour des questions de statut de minorité en Occident, et qui les a rendus très, très sensibles les uns aux autres, en fait. Mm-hmm. Hein. Pour les orthodoxes, c'est un petit peu plus compliqué, parce que l'orthodoxie dans beaucoup de pays reste sur la théologie des pères, hein, et c'est bien documenté quand on le voit dans l'ouvrage que vous mentionnez à l'instant. J'ajoute une chose, il reste un pas qui n'est pas si facile à franchir pour l'Église catholique, pour des raisons et externes et internes. C'est-à-dire l'appréciation que l'Église pourrait porter sur, bon, j'utilise mes mots, hein, qui sont à prendre avec des pincettes, sur un état théologique, pour faire court. Voilà. Et passer d'un état moderne à un état théologique, c'est pas si simple que ça. Et je pense que l'Église dirait un peu la même chose dans d'autres circonstances, dans d'autres contextes religieux. Pour des raisons internes, l'Église a été suffisamment échaudée par sa propre histoire, où l'instrumentalisation politique du religieux ou religieuse du politique a été quand même... On peut voir que dans l'histoire de l'Occident, il y a eu une instrumentalisation réciproque qui était relativement forte. Et il a fallu la fin du 19e pour pouvoir mettre enfin en application ce fameux adage « rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César ». Dans un État moderne, la source du droit, c'est la Constitution, c'est les lois qui sont votées de façon démocratique par un Parlement, c'est la séparation des pouvoirs judiciaires, exécutifs, législatifs. Donc de ce point de vue, alors sans doute que j'ai lu quelque chose d'assez intéressant cette semaine dans une revue, la revue des Franciscains Intercentres, sur qu'est-ce que non seulement, évidemment, le statut de la terre, le statut théologique de la terre, mmh. à dire aux chrétiens, voilà, qui pour nous est une réalité un peu étrangère comme chrétien, parce qu'il y a un auteur du XIXe siècle qui dit « ils sont toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie leur reste une demeure étrangère, parce que la véritable patrie, c'est la patrie des cieux pour un chrétien ». Donc, la question de la terre, donc c'est une première question théologique, et la question d'un état religieux. Donc, c'est une autre question théologique, qui, pour le moment, est une question qui n'est pas si simple que ça à appréhender. Parce que du coup, j'ai eu l'occasion déjà de le dire, qu'est-ce que ça veut dire du statut des minorités religieuses dans un état qui est un état religieux? Quel est le statut des minorités religieuses? Et ça, c'est une question qui traverse d'autres réalités religieuses à l'échelle mondiale. Donc ça appelle de nouveaux développements pour nous, en interne, en sachant que je pense qu'il y a deux critères, il y a deux moyens d'avancer. La première, c'est d'accepter qu'il faille du temps. On ne peut pas réagir sous la pression de l'événement, on ne peut pas réagir sur la pression de l'urgence, parce que c'est pas de bons conseils, il faut prendre du temps. Et puis la deuxième, c'est qu'il faut réfléchir. Il ne faut pas seulement ressentir, en fait. Et on voit bien que beaucoup d'événements nous font plus ressentir que réfléchir. Et ça, c'est pas simple.
Oui, qu'aujourd'hui, le poids des médias, et merci de contribuer à la réflexion, parce que le poids des médias ne va pas toujours dans le bon sens, en tout cas l'usage qui en est fait aujourd'hui, y compris par les jeunes gens. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Père Clément. Nous avons aujourd'hui parlé de l'anniversaire de Nostra Aetate, enfin surtout de ce texte, de ce que vous avez pu en dire. Je pense que nous y reviendrons, parce que, comme vous l'avez dit, rien n'est jamais terminé, et que nous avons parlé de différents points, mais abordé même très légèrement, mais succinctement en tout cas, la question de la théologie de la terre et la question de l'état religieux. Nous y reviendrons. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur Shalom Bourgogne. À très bientôt.
Merci Thierry.